Nous sommes le jeudi 8 janvier 2026. Il est 21h et quelques petites secondes sur Radio Canus en 2.2. Bienvenue dans cette nouvelle année d'une ère de la game. Le nerf de la game, l'émission qui aborde le monde du jeu vidéo par sa face alternative. Chaque semaine ou presque, vous retrouverez ici un cocktail d'actu sur les rouages de l'industrie du jeu vidéo et sur les titres qui attisent la curiosité, surtout du côté indépendant du paysage vidéoludique. Salut Romain.
Salut Xavier.
Et bonne année à toi aussi.
Et ben bonne année, écoute, meilleurs vœux. Et mon vœu pour toi, ce sera... moins de nouveaux jeux chaque semaine qui apparaissent sur Steam. Ce sera mon...
Alors moi ça me pose pas ce problème particulier.
Oui mais oui, alors moi ça me pose un problème pour voir tes émissions en entier, d'accord.
Ah oui oui, ben on c'est prévu de reprendre. À un moment ou un autre je vais reprendre.
Ça marche. En tout cas, je suis ravi qu'on reprenne les hostilités. On n'avait pas fait d'émission. Finalement, la dernière qu'on a fait, ça doit être mi-décembre.
Ouais, je crois. Ouais.
Et ce qui est bien, c'est qu'entre mi-décembre et maintenant, on a mangé, on a bu et surtout, on a vachement joué.
Oui.
On a beaucoup joué à plein de trucs et on ferait bien une liste exhaustive de tout ce à quoi on a joué, mais comme on est des gigantesques nerds, on va faire une sélection parce que ça sera trop long.
Ben c'est ça, enfin, sinon ça va être très très compliqué. Il y a d'ailleurs des trucs dont on a déjà parlé peut-être, par-ci par-là.
Sûrement. Et c'est-à-dire que là en ce moment...
Des jeux auxquels j'avais déjà joué et que je serais un peu retombé dedans, enfin voilà.
Non mais aussi des... Moi il y a un jeu dans lequel je suis en train de tomber assez méchamment, mais qui s'appelle Ball Pit. Et on a déjà parlé auparavant, et c'est la drogue. Hein.
Pendant des mois, tu as essayé de le vendre aux gens, oui. Et en fait, tu ne l'avais pas encore.
Non, parce que, en fait, comme on dit toujours, la drogue, ça se vend, ça ne se consomme pas.
Ouais.
Et quelqu'un me l'a vendu.
Ouais. Non, mais c'est bien, au moins, on sait que quand. Souvent, quand tu parles, tu sais pas forcément de quoi tu parles.
J'avais passé déjà un temps absolument scandaleux sur la démo.
C'est vrai.
Passant, j'avais déjà fait 3 ou 4 heures dessus.
Et du coup, c'est de ça dont tu vas nous parler
Non, on va parler d'autres jeux. Okay. Parce que Ball Pit, peut-être que j'en reparlerai quand j'aurai tout fini. Surtout que... Surtout qu'il y a des extensions qui vont arriver.
Oui, des extensions gratuites, du contenu supplémentaire qui va être rajouté au jeu, prévu dans le courant de l'année. Je ne crois pas qu'il se soit engagé sur une date. Hein, mais,
non, c'est ça, ouais.
Voilà. Mais c'est prévu des nouveaux persos.
C'est censé arriver, je crois, premier trimestre, en tout cas, au moins déjà des nouveaux persos,
nouveaux biomes.
Nouveaux bâtiments, etc., etc., etc. Non, moi, ce dont je vais parler, ça va être plutôt des jeux narratifs. Mm-hmm. Du coup, c'est moi qui commence ou...
Comme tu veux.
Écoute, je vais parler d'un jeu auquel tu as un peu joué, mais que j'ai terminé, qui s'appelle Dusk Punk.
Oui, Dusk Punk, et pas Dust Punk.
Oui, c'est pas... Alors, voilà. Alors, le truc, c'est que je ne sais pas parler anglais. Donc, Dusk, je ne sais pas ce que ça veut dire.
Ça veut dire le crépuscule ?
Oui, c'est ça.
C'est ça.
Voilà.
Je confonds toujours avec l'aurore, avec les différents moments. Mais les moments de la journée.
Ah, ouais.
Lequel est quand ?
Oui, c'est ça. Parce que Dawn, c'est l'aube, je crois. Enfin, c'est.
Non, Dawn, c'est aurore.
C'est l'aurore, oui.
Ouais, Dawn, c'est aurore. L'aube, c'est une bonne question, tiens, en anglais. Mais Dusk, D-U-S-K. Ouais,
oui.
Et pas D-S-K. C'est pas exactement le même. Il est moins punk. Et du coup, voilà. Dusk, effectivement, c'est le crépuscule. Donc, le punk du crépuscule.
C'est ça. Le punk du...
Ça te va bien.
Le punk du crépuscule. Alors, avant de dire ce que c'est, je voudrais dire que c'est un jeu qui a été développé en grande partie par un dev qui s'appelle James Patton. Il a été aidé pour certaines choses, notamment pour la partie graphique et puis pour tout ce qui est QA de manière générale. Mm-hmm. Et pour tout ce qui est écriture, pour tout ce qui est gameplay, game design, etc. Tout le reste, c'est fait et écrit par James Patton. James Patton qui est notamment connu pour un autre jeu qui s'appelle Silicon Dreams, auquel tu as joué.
Tout à fait, j'en avais écrit un article dessus d'ailleurs, à l'époque.
Sur lequel, alors on va, comme il y a quand même pas mal de jeux dont on veut jouer, je vais pas m'apesantir sur les Silicon Dream, mais s'il faut savoir un truc sur Silicon Dream, c'est qu'il est très bien écrit.
Complètement.
Et je que ça tombe bien parce que The Spunk est un jeu essentiellement narratif avec beaucoup de textes et il est très bien écrit aussi. Que c'est quoi The Spunk ? C'est un RPG. Un RPG assez light, par contre, en termes de, de statistiques, etc. Mm-hmm. On va jouer un déserteur de la guerre.
J'aurais plutôt dit un survivant, mais qui n'a pas envie d'y retourner. Mais disons que tu n'as pas déserté volontairement.
On va dire que
t'es réveillé sur un tas de cadavres, en fait.
C'est ça.
C'est le début du jeu, je spoil rien, mais j'appelle pas ça déserter. Enfin, si, après, quand tu fais en sorte de pas y retourner, d'accord.
Voilà. À partir du moment.
Mais sur le moment, t'as pas fui, si tu veux.
À partir du moment où ton premier réflexe, c'est pas d'aller directement à la commandant tour pour te signaler et dire.
À la caserne, monsieur.
Est-ce que je peux y retourner?
Et j'ai pas terminé
parce que je peux y retourner.
Je suis pas complètement mort, je peux y retourner.
Tu es un déserteur par définition.
Oui.
Donc on est dans un monde que je décrirais comme Angleterre victorienne, avec un petit twist, c'est que l'énergie qui est utilisée, souvent on utilise le steampunk quand c'est avec plein de machines faites par la vapeur.
Mm-hmm. C'est un univers fictif du coup, hein. Enfin, c'est ambiance c'est très victorienne.
C'est un univers très fictif. L'ambiance est très Angleterre victorienne, notamment par rapport à tout ce qui va être, on va dire, technologie, système de pouvoir. Mmh. Et ambiance sur tout ce qui va être la gestion des colonies ou la gestion de ce qui est extérieur de l'empire de façon générale. Ouais. C'est pour ça que ça me fait beaucoup penser à ça.
Complètement.
Et il se trouve que là, l'énergie, en fait, il y a effectivement, on parle de l'énergie au charbon, mais l'énergie qui fonctionne le mieux, c'est le plasme, donc le plasma. Voilà. Et le plasma, ça, dans ce monde-là, il s'obtient en faisant cuire des gens.
C'est soleil vert, mais pas pour en faire du manger.
Pas pour en faire du manger, okay. Pour en faire de l'essence.
D'accord.
Voilà. Bah,
écoute, pourquoi pas ? Au moins que les gens servent à quelque chose. Hein ?
Voilà.
Les dinosaures, bon, 150 millions d'années plus tard, c'est devenu de l'essence. Bon... Est-ce que on gagne du temps simplement dans le chemin de l'évolution?
J'ai envie de donner l'idée à Retailleau pour savoir ce qu'il va en faire de cette idée-là.
2026 commence déjà pas assez, enfin commence pas assez bien déjà. Tu as des idées de merde comme ça?
Tu veux qu'on parle d'essence?
De pétrole, monsieur.
De pétrole, ça n'a rien à voir.
Enfin, voyons.
Et donc, clairement, on est ce personnage-là. Là, les premières choses qui arrivent, en fait, c'est qu'on essaie de s'extirper donc de ce tas de cadavres. On se barre de l'usine à
plasma, du coup.
À plasma, voilà. Et après, on se démerde. Voilà. Donc, en gros, on est un locteux, on est un miséreux, on n'est pas, on boite. Déjà, ça, tu sais, non, mais ça se.
Ouais. Mmh, c'est important.
C'est un élément assez important. Genre, tu pourras pas t'enfuir en courant. Tu vois, c'est
oui.
Ce genre de choses.
Et c'est vrai que c'est. On joue un handicapé de guerre.
Oui, c'est ça. Mmh. Et en fait, à partir de là, ce que je trouve en fait intéressant dans ce jeu, qui est surtout très verbeux, en fait, on n'a pas un personnage qu'on va manier de façon. Dans un monde ouvert ou ce genre de choses, ça va être vraiment construit un peu comme un livre dont on est le héros, c'est-à-dire que on a plusieurs embranchements, plusieurs possibilités, et va falloir les emprunter ou non selon nos choix et aussi selon les caractéristiques de notre cas, de notre personnage, pardon.
Okay.
Et de la fiche de personnage que tu as. Également.
Ok, donc la partie jeu de rôle qui vient un petit peu là-dessus.
Ça, voilà.
Donc les opportunités qui seront différentes en fonction d'eux.
C'est ça. Ce que je trouve intéressant, en termes de système de jeu, pour ceux qui ont joué, ça reprend un système de jeu qui est très 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 semblable à celui de Citizen Sleeper, c'est-à-dire que pour décider de ce que vous allez pouvoir faire, en gros, pour chaque action... On va prendre une des statistiques que vous avez sur votre fiche de personnage et on va lancer un dé. on va ajouter le nombre qu'il y a dans votre fiche de personnage et on va voir si c'est
fait assez pour réussir.
Fait assez pour réussir normalement, pour faire une réussite critique, ouais. Ou pour foirer de façon irréversible.
C'est ça qui est intéressant dans le jeu, c'est que tu as des réussites, différents niveaux de réussite. C'est pas voilà. Oui, non. C'est pas aussi basique que ça. Et ça permet aussi des fois de nuancer un peu l'histoire et même de continuer l'histoire malgré un échec.
Enfin, c'est ça.
Ça, c'est intéressant aussi.
Ouais, je trouve ça pas mal. Mmh. Ça, c'est pour la partie vraiment mécanique. Pour la partie de pourquoi c'est intéressant à jouer, c'est parce que c'est un jeu avant tout de factions. Contrairement à Citizen Sleeper, qui te met en place des factions, mais en vrai.
Bah toi, tu navigues autour. Ouais. Tu navigues, tu communiques avec et tu échanges avec. Alors
tu échanges avec.
Mais tu n'en fais, enfin, tu en fais partie peut-être parfois.
Tu peux bosser pour eux.
Je vais dire par opportunisme, j'allais dire.
Voilà. Tu fais jamais vraiment partie d'eux.
Ouais.
Alors que dans Duskpunk, on va te demander un engagement beaucoup plus fort. Qui va te bloquer l'entrée dans d'autres factions.
Ok, donc des vrais choix, tu ne peux pas tout faire en une seule... Enfin, c'est pas le genre de jeu où tu vas tout voir, tout lire.
Voilà.
Tout...
C'est pas totalement binaire, dans le sens où tu peux fricoter avec plusieurs, mm-hmm. et il n'y a pas genre, à un moment donné, on te dit, vas-y, fais un choix. C'est
ouais.
Pas forcément.
Okay.
Mais certains choix vont t'enfermer d'autres. C'est ça que je trouve intéressant. Mmh. Ça va être souvent en fait des choix qui sont soit pragmatiques, soit idéologiques, hein, tout simplement.
Okay.
Et en gros, le jeu, il y a pas de. Ce que j'aime bien, c'est que souvent les jeux, on essaye d'avoir une sorte de boussole morale.
Ok.
On va te dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Toi, t'es en mode survie en fait. Et dès le début, tu peux très bien avoir pour but, moi dans la vie je veux plus jamais souffrir comme j'ai souffert auparavant, donc je veux être avec des gens puissants qui me protègent. Le reste ça m'intéresse pas.
Mmh. C'est une des voies.
Oui voilà, et le jeu te dit ok allons-y quoi.
Oui, c'est pas un côté, y a pas une bonne fin, enfin y a pas...
Oui, parce que justement, quand on parle notamment du RPG à l'occidental... Et quand on pense notamment les systèmes à la Bethesda, typiquement avec des systèmes de karma, de genre de trucs.
Ouais, de réputation, de genre de trucs.
La réputation, elle se fait auprès de certains, mm-hmm. mais en gros, si t'es un gros bâtard, mais que tu t'en sors, mais que.
Tu gères.
Tu gères, t'es protégé, t'as tes systèmes, ben, le jeu te dit, bah. Ça roule, hein.
Bah, t'es en vie, c'est déjà pas mal.
Non, mais voilà, c'est donc. Enfin, c'est ça que je trouve. J'ai trouvé le jeu vraiment intéressant. Mmh. T'as pas mal de fins différentes qui vont de pour schématiser. Je vais être le prochain Che Guevara ou Patrice Lumumba, mais en vivant. Voilà.
Ok.
Qui vont de là à vive l'empereur et l'empereur c'est cool.
Ok. Ouais, ok. Je vois la marge qu'il y a entre les deux.
Non, mais voilà. Et à chaque fois avec des choses assez logiques. Mmh. Il y a des embranchements.
C'est une histoire qu'on te raconte où tu fais partie de. Enfin, c'est ton histoire qu'on raconte, mais c'est pas le côté. Enfin, il y a pas. Tu gagnes pas. Enfin, l'objectif c'est pas de. Tu peux perdre parce que tu peux mourir.
Oui.
Mais il n'y a pas le côté il faut avoir fait tel truc. L'objectif de la fin du jeu, c'est de battre tel ennemi ou quoi.
À la base, en fait, le truc, c'est que j'ai fait plusieurs parties. Quelle que soit la partie, il y a des événements qui vont avoir lieu.
Mmh. Mmh.
Et certains événements qui dépendent de toi. Mais les événements principaux ne dépendent pas de toi. En fait, c'est que au bout d'un moment, en fait, il y a des factions que tu les aides ou que tu les aides pas, elles vont agir. En fait.
Mmh.
Et donc, elles vont faire des trucs.
D'accord.
Si elles font des trucs et que tu les aides et que ça marche, eh ben, ça va avoir un effet différent. Si tu les aides pas, ça va avoir l'effet de base et ça va provoquer. Enfin,
ouais, l'histoire va continuer quand même.
Il y a un côté, en fait, c'est un monde entre guillemets vivant qui mmh. va se dérouler sans toi parce que tu peux choisir d'être un protagoniste, mais t'es un pégu en fait.
Mmh.
J'aime souvent ça. C'est ça que j'aime bien en écriture. C'est. Je suis désolé de le comparer tout le temps à Citizen Sleeper, c'est parce que le style est quand même très très similaire.
Oui, même les deux auteurs des deux jeux ont communiqué en mode... les deux se sont déclarés... Je crois que c'est l'auteur de Citizen Sleeper, dont j'ai oublié le nom,
oui.
qui a dit que Duskpunk c'est Citizen Sleeper like, mais en mode steampunk. Quoi.
Voilà. Et le truc que je... Alors, j'aime beaucoup Citizen Sleeper, Je crois qu'il est encore mieux écrit que Daft Punk. Et pourtant, Daft Punk est bien écrit, mais voilà. Que j'aime bien l'univers, j'aime bien ce que ça, que, comment il parle d'humanisme de façon générale et de l'humanité. Je trouve ça très très intéressant. Néanmoins, je trouve qu'il a un peu trop le syndrome du protagoniste.
Ouais, les choses n'arrivent que autour de toi et grâce à toi.
C'est-à-dire que tu peux très bien faire patienter le truc pendant des cycles et des cycles et des cycles, et il se passe rien.
Oui, le jeu t'attend.
Sauf si tu as enclenché l'action qui va dire que en fait le jeu te dit dans six cycles il y a ça qui se passe.
Mais sinon le jeu t'attend quoi.
Voilà, c'est ça.
Ok.
C'est ce que j'avais trouvé. Et là, je trouve que c'est moins le cas dans celui-là.
C'est suffisamment subtil quand tu joues à Citizen Sleeper pour pas que ça te saute aux yeux trop souvent.
C'est en jouant à un autre que je m'en suis aperçu, en fait.
Bien sûr, mais c'est, voilà, c'est un, on va dire, un système qui est pas plus mauvais qu'un autre.
Hein. C'est pas un mauvais système en soi, c'est juste que t'as un côté... Bah,
tu t'en rends compte, comme tu dis, quand tu fais autre chose et quand on te propose une version, en fait, du monde qui existe et qui tourne même sans toi.
C'est ça, c'est vrai qu'en fait, le truc, c'est que tu as t'as vraiment une épée de Damoclès dans Citizen Sleeper qui fait que, en gros...
Tu dois quand même faire quelque chose.
Tu dois faire quelque chose vite, 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 sinon tu vas crever ou tu vas devenir fou ou pas loin, quoi. Donc voilà, donc c'est... Il y a un côté course contre la montre, donc t'as un côté très qui t'oblige à être très protagoniste très vite. Ce qui est moins le cas là, où t'as un côté, oui, je survis, mais je suis un glandu, je suis personne. Et pour survivre, on te propose, vas-y, fais ça, ou fais ça.
C'est déjà pas mal.
Ouais. Un excellent jeu. Une run se finit en une petite dizaine d'heures à tout casser.
D'accord.
Voilà. Je pense que dans quelques temps, j'en referai.
Pour voir d'autres.
Bah, en général, je fais des runs. J'ai fait une première run avec des erreurs. J'ai fait une deuxième run où j'ai dit, ok, maintenant que je connais le jeu, j'ai envie d'avoir la fin que je veux, donc je vais là-dedans. Et maintenant, je vais faire une run où je dis, qu'est-ce que c'est. En gros, j'ai déjà fait un peu crevard. Est-ce qu'on peut faire ultra crevard? Tant qu'à faire, quoi.
D'accord.
Donc voilà, quoi.
Ok. Ok. Je crois qu'il est sorti donc en octobre, novembre, je sais plus.
Ouais, je dirais octobre ou novembre.
Ouais, je crois dans ces eaux-là. Il vaut 15-20 balles.
Ouais, il coûte 20 balles.
Il est à 20 balles, je crois, en prix plein tarif et 15 balles à la sortie, un truc dans le genre.
Ouais, c'est ça.
Mais pour une dizaine d'heures de jeu, d'un truc bien écrit, franchement, et c'est pour moi le même niveau en fait, de qualité que Silicon Dreams.
Ouais.
Qui avait aussi ce rapport à la narration, à te raconter des trucs. Qui se passe quoi qu'il arrive, où tu dois faire toi-même des choix par rapport à ça. Enfin, il y avait déjà un peu cette approche-là de la narration.
Tu y avais joué un peu, toi.
Ouais. Oui, mais c'est plus centré sur le perso, mais enfin, voilà.
Oui.
De la bonne qualité, effectivement, ce qu'écrit James Patton.
Ouais, c'est ça, James Patton. Ouais. Et non, mais un jeu que, pour le coup, que je recommande, notamment pour tous ceux qui ont envie de jouer à un RPG, mais qui n'ont pas forcément. Comment dire ? On pas forcément le côté si vous avez envie d'un gameplay action ou ce genre de choses.
Là on n'est pas sur ce genre de truc.
Non.
Et il est en anglais ?
Il est que en anglais.
Il est uniquement en anglais pour l'instant.
Il est pour l'instant pas prévu de traduction. Le problème avec ce genre de jeu, hein, comme souvent,
il faut avoir un minimum de moyens.
Il y a beaucoup de textes pour le traduire dans une langue. C'est un gros boulot. Et comme ce sont des gens honnêtes. Donc ce sont des gens qui veulent faire une traduction de qualité et relue.
Donc pas par IA, ni par la communauté, profitant de la bonne volonté des gens.
C'est-à-dire, donc ça veut dire en payant des gens pour le refaire correctement.
Et sachant que c'est un jeu indépendant qui n'a pas d'éditeur, et donc qui n'a pas ce pouvoir-là en fait, financier pour le faire.
Voilà, je suis très content d'être tombé dessus, plus ou moins par hasard, dans un Steam Fest.
D'accord, c'est pas parce que je te l'ai montré.
Écoute, non mais tu vois, il y a des gens qui sont prescripteurs et puis il y a toi, quoi.
Alors que tu m'as dit le jour même, je t'ai vu y jouer pendant 2-3 heures, je l'ai acheté. Ouais, moi je me souviens de cette phrase.
Oui.
J'aurais rien d'autre à dire, votre honneur.
J'avais déjà bouffé la démo à ce moment-là.
C'est vrai.
Par contre.
C'est vrai.
Mais effectivement, mais en vrai, c'est surtout, voilà, c'est un petit jeu, petite envergure. De ce que j'ai compris, il a déjà rempli ses objectifs en termes de vente pour se rembourser,
pour payer son boulot.
Pour payer son boulot.
Tu verras s'il y a.
On verra si ça fait plus. Le truc, c'est que un succès à la Citizen Sleeper qui a permis de faire des traductions, ben, c'est rare, hein, parce que Citizen Sleeper a, je pense, a fait 10 fois le résultat qu'il attendait pour se rembourser, hein, c'est surtout ça. Peut-être même plus.
Ouais, hein. C'était pas son premier jeu, enfin bref, ouais, il y avait aussi un contexte différent.
Voilà, là non plus, c'est pas son premier jeu, mais bon, Silicon Dream, pareil, c'est.
Ouais, c'était de l'indé indé, quoi.
C'est très très confidentiel aussi, donc, ouais. Mais en tout cas, voilà, un jeu que je conseille à tous ceux qui n'ont pas peur de se lire du bon anglais.
Ok. Du coup, moi je vais parler d'un jeu qui est disponible en français, tiens. Pourquoi pas. Qui est sorti en Early Access le 3 novembre de l'année dernière, du coup. Il s'appelle Tavern Keeper. Un jeu de Green Heart Games. Green Heart Games, c'est un studio qui est un petit peu connu parce qu'il avait développé un jeu qui s'appelle Game Dev Tycoon.
Oui.
Il y a maintenant très longtemps, hein, plus de 10 ans, avait lancé un peu cette...
Un des jeux référence dans le...
Référence, bah, tout le monde le cite parce que c'est un des premiers en fait, oui, à avoir proposé ce type de gameplay où on monte un studio de jeux et on doit... Voilà, on invente des noms pour les jeux, des genres, etc. Même si, bon... il a été largement dépassé depuis.
Oui, mais c'est quand
au niveau du principe.
Référence à cause de ça, parce que.
Oui, parce que c'est un des premiers aussi à avoir proposé ce genre de truc.
Oui, et avoir bien fonctionné d'ailleurs.
Oui, ça a très bien marché. Ça a très très bien marché à l'époque, ouais. Et c'est un studio donc de australien qui a fait ça. Donc c'est fondé par deux frères, Patrick et Daniel Klug. Rien à voir avec le Père Noël est une ordure, mais. Bref, c'est un studio donc australien qui a passé donc des années, hein, je crois pas loin de 10 ans, donc à développer ce Tavern Keeper après avoir sorti Game Dev Tycoon. Tavern Keeper, bah, un peu comme son nom l'indique, en fait, on gère une taverne. C'est un jeu dans lequel on va gérer une taverne. Globalement, on est sur une ambiance médiévale fantastique avec des nains, des halflings, des orques, ce genre de bestioles qui viennent dans la taverne pour picoler, manger. Et donc on doit des elfes aussi, enfin bref, il y a un peu tout ça, ambiance très très jeu de rôle aussi, très très féerique, très coloré, très très mignon. L'humour est plutôt sympa et bien traduit globalement. Il y a des sortes d'événements où on vient te raconter des trucs, etc. Enfin, globalement c'est l'ambiance est très très joyeuse, très très souriante et très agréable. Et donc on est dans un jeu de gestion. Un jeu de gestion, donc en fait on pose des tables, on pose des tireuses à bière, on met des fûts dedans et on tire de la bière, on sert de la bière aux gens qui viennent au comptoir ou sur les tables qui se sont installées. Globalement c'est vraiment le concept.
C'est un jeu de flux ou pas ?
Ouais, un peu, ouais. Parce que du coup tu as effectivement des boissons, tu choisis le prix, en fonction du prix et de la qualité de la boisson, plus de gens vont l'acheter, enfin, t'as vraiment cette logique-là, tu dois gérer tes stocks. Tu dois gérer le quotidien, c'est-à-dire l'emploi du temps de tes employés. Tu peux très bien faire une comment dire avoir ta taverne ouverte de 8h enfin de midi de midi à minuit par exemple. À ce moment-là, tu mets tes horaires de travail de tes employés en fonction. Mais évidemment,
il y a un droit du travail dans ton jeu ou pas ?
Alors non, la limite elle est au niveau de comment dire de la satisfaction de tes employés. C'est-à-dire que si tu les fais travailler trop longtemps, t'en as certains, ils veulent pas travailler plus de 10 heures, d'autres pas plus de 12 heures, d'autres pas plus de 14 heures. Mais globalement, oui, ton droit du travail, ça suit avec. Mais globalement, tu as en fait ces choses-là à gérer pour que les employés soient pas mécontents. Parce que quand ils sont mécontents, bah, ils foutent le bordel, ils bossent plus. Il y en a certains qui déclenchent des bagarres, il y en a certains qui volent des trucs. Enfin bref, tu as en fonction de leurs caractéristiques. Des conséquences différentes si tu les maltraites, entre guillemets.
Et j'imagine que tu gères la paye avec, c'est ça aussi ?
Ouais, c'est ça. Tu gères aussi la paye. Ils prennent des niveaux parce qu'ils prennent de l'expérience dans les différentes activités qu'ils doivent faire.
Tu ne me dis pas que quand ils sont meilleurs, tu es obligé de plus les payer.
Et si, bien évidemment, ils demandent.
C'est pas un vrai jeu, ça. C'est pas la vraie réalité.
C'est pas comme ça que ça marche. Quand tu prends des compétences, tu les augmentes. C'est pas...
Non. Quand ils prennent de la compétence, tu leur dis quand tu en prendras plus.
On en reparle.
On reprend un rendez-vous ensemble pour voir dans quelle mesure je pourrais te proposer un autre rendez-vous.
Voilà. Voilà. Ou une autre formation pour que tu t'améliores encore.
Voilà.
Bref. On est un peu dans cette logique-là. Alors, le jeu est très narratif dans la proposition telle qu'elle est aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est un jeu qui est en accès anticipé, donc il n'est pas terminé. Pour l'instant, effectivement, tu as trois biomes principaux dans lesquels tu, en gros, t'as dans le marais, dans le désert et je crois dans la forêt. Enfin bref, t'as différentes ambiances, différentes ressources du coup, différents clients et une histoire différente avec, en gros, t'en as un où tu dois justement aider une scientifique à fabriquer une fusée. Enfin bref. En même temps, en parallèle, si tu veux, de l'histoire du jeu, enfin de ta gestion de ta taverne. Tu peux évidemment jouer en mode bac à sable, comme on dit, où tu ne fais que gérer ta, ta taverne à l'infini, sans objectif de fin ou quoi. Mais voilà, enfin tu as plein de trucs à gérer, tu as les invasions de, d'insectes, enfin tu as énormément d'événements comme ça qui peuvent venir, et tu as une personnalisation de la taverne qui est extrêmement poussée. Parce que tu peux vraiment la décorer comme tu veux, tu débloques des éléments de décor, que ce soit des colonnes, que ce soit des drapeaux, des tableaux, ce genre de trucs, ou des tables avec des, du style. Bref, tu peux vraiment la personnaliser comme tu veux, avec différents styles. Tu peux vraiment passer du temps simplement à faire ton, ton petit... comment dire, vraiment à créer ton, ton petit, dia, ton petit diorama, tu vois.
Elle, elle fait de la bouffe, ta taverne, ou pas ?
Oui, elle fait également de la bouffe, tu dois aussi...
Donc il y a les stocks et les flux de
les stocks,
aussi,
les stocks de... Voilà, c'est ça, les marmites à remplir de ragoûts en fonction. Tu choisis effectivement trois ingrédients pour faire les soupes ou les ragoûts. Ça plaît plus ou moins à différents types de clients, etc. Donc tu as un petit peu tout ça à gérer, c'est plutôt bien fait. Vraiment, c'est très très chill, très 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 agréable à manipuler. Il est vraiment très très bien, très très bien foutu pour ça. Ils ont très bien géré, je pense, leur communication par rapport au fait que c'est le studio qui a fait Game Dev Tycoon. Donc énormément de gens possèdent leur jeu, leur premier jeu. Donc quand ils ont fait de la com à tous ceux qui possédaient déjà leur jeu, bah ça a bien marché. Il a déjà plus de 3700 reviews. À 95% positif.
Ouais,
ce qui est beaucoup.
Je l'ai pas mal vu dans les. Enfin, en gros, quand, le truc à savoir, c'est que là, on parle de jeux qui sont sur Steam. Mm-hmm. Et que quand on se promène sur cette boutique-là, pour rappel, Steam qui est la boutique quasi hégémonique pour quand on veut acheter un jeu sur PC, un jeu premium sur PC, en tout cas, Tavern Keeper, il revenait souvent en fait, soit en publicité, soit en
jeu que tes amis possèdent,
en jeu que tes amis possèdent, en suggestion, etc. Il revient quand même très souvent, ou dans les différents événements, gestion, machin, il était toujours très très bien placé. Ils ont vraiment bien géré leur com. Ouais.
Ils ont bien géré leur com, et puis en vrai, ils ont bien géré leur fonctionnement même interne du jeu. Enfin, tu sais, moi j'aime beaucoup les jeux de gestion de façon générale, et j'aurais pas passé autant de temps dessus si, par exemple, il avait été bancal sur l'économie, sur des choses comme ça. Alors, tu peux toujours améliorer ces parties-là, et moi c'est toujours ce genre de choses qui me déçoit dans les jeux de ce genre, c'est que je veux savoir pas au centime près, mais combien par exemple tu achètes un tonneau de picole, tu le vends, tu peux faire tant de verres avec, bah du coup combien ça te coûte, combien ça te rapporte, etc. Enfin tous ces calculs là, si tu veux, c'est très empirique, c'est très vas-y, t'as 30 balles pour acheter le tonneau, bah vas-y, et puis après tu feras de la thune avec, tu pourras en racheter un autre, etc. Enfin c'est un peu basique au niveau de l'information qui est donnée dans le jeu. Mais ça, c'est parce que je suis un peu un fou furieux du contrôle, en tout cas, et du calcul de ce genre de choses.
Oui,
j'aime bien les jeux Excel. Oui, mais celui-là est très, dans le sens où justement, il doit pas intimider parce que c'est un jeu de gestion. Justement, il est suffisamment accessible et en même temps suffisamment profond pour être intéressant. Donc, il est très accessible. Il te demande pas de vraiment d'être au poil. Être ultra précis, etc., pour jouer, pour ne pas perdre, pour ne pas être en banqueroute. Mais en même temps, bah, si tu veux vraiment optimiser les choses, ça te demande. T'as pas beaucoup d'outils dans le jeu pour le faire, mais tu peux le faire malgré tout de toi-même. Tu as beaucoup d'éléments, des tableaux, des trucs. Les gens te disent ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils n'ont pas aimé. Enfin, tu peux vraiment améliorer tes trucs et en fonction du client. Les orcs, ils veulent pas la même chose que les humains ou les elfes.
Oui, mais, Donc, est-ce qu'on veut vraiment d'orcs? Chez nous.
Alors, ça, je te laisse la liberté de tes paroles. Mais en tout cas, ouais, très cool pour un petit jeu. J'attends effectivement de voir qu'est-ce qu'ils vont rajouter. Je sais qu'il y a deux biomes qui sont encore prévus, donc qui sont pas encore disponibles dans le jeu. Donc, beaucoup aimé pour un petit jeu qui m'a coûté un tout petit peu plus de 20 euros. De base, il est à 28 avec la réduction actuelle. Là, parce qu'il est encore en promo, tiens, jusqu'au 19 janvier. Il est à 22 € et quelques, mais si vous possédez Game Dev Tycoon, il y a une réduction supplémentaire qui l'amène à un tout petit peu plus de 20 €.
Je connais pas trop les prix pour les jeux de gestion. Ça te paraît des prix raisonnables ou il est un peu cher?
Non, c'est raisonnable. En vrai, 20 balles pour ce genre de jeu, c'est un bon positionnement, je trouve, surtout en early access.
Ok.
Il pourrait être, enfin 28, ça commence à, pour moi, c'est déjà ça approche de la fourchette haute pour un jeu en early access, pour un jeu qui n'est pas terminé. Mm-hmm. À 20 balles, on est bien. Et je pense que terminé, je serais pas étonné qu'il monte à 30.
D'accord.
En prix
logique.
En prix et puis en prix cohérent par rapport au contenu. Après, encore une fois, c'est effectivement, enfin c'est un petit budget, mais c'est le genre de jeu sur lequel j'ai déjà passé 15 heures ou 20 heures dessus. Mmh. Donc oui. Bon, ça, pour moi en tout cas, pour les amateurs de jeux de gestion, je trouve que ça justifie pas mal.
Oui, sachant que les gens qui sont accros aux jeux de gestion en général, c'est plutôt ils comptent en dizaines voire en centaines d'heures. Hein, donc
ouais, voilà. C'est pas un jeu de grande stratégie à la Europa Universalis ou Crusader Kings, mais c'est le genre de jeu effectivement tu vas y passer
un peu de temps.
Ouais, ouais, une vingtaine, trentaine d'heures sans problème et très agréable.
Cool, super.
Voilà.
Moi, je vais parler d'un jeu qui s'appelle American Arcadia.
Tu joues que à des jeux que je connais. C'est rigolo.
Alors,
moi, je l'ai fini aussi celui-là.
Il y a bonne question. Est-ce qu'il y a des jeux que tu connais pas?
Il y a des jeux que je connais et des jeux que j'ai fini. Celui-là, je l'ai fini.
Okay. American Arcadia, qui est un jeu par le studio Out of the Blue, un studio espagnol. Qui a été connu notamment pour son premier succès qui s'appelle Call of the Sea, qui est.
J'ai eu peur.
Pardon. Call of Duty. Pour Modern Warfare 4.
C'est ça.
Alors, j'ai joué American Arcadia, ça a changé. Hein.
Ouais, c'est plus le même esprit. Bah, c'est l'armée américaine, mais pas la même.
Alors. Il y a une partie première personne, mais...
Ouais. Et c'est pas la meilleure partie du jeu.
Non, c'est vrai.
Vas-y.
Et donc, oui, Call of the Sea, pour replacer ce que c'était, c'est que t'es un jeu plus... une trame d'aventure, mais surtout un jeu d'énigmes.
Oui, c'est ça. Des énigmes de partout, du puzzle, voilà. Ambiance un petit peu... très exploration 19e, un truc
c'est
dans
ça,
genre un peu
l'ambiance, sur... l'ambiance, ouais. Elle est très exploration 19e, mais c'est pas du tout un jeu d'exploration. C'est un jeu
tu
puzzle après puzzle après puzzle, voilà. Après puzzle.
Tu explores un endroit en débloquant la partie d'après, en résolvant un puzzle.
C'était clairement un jeu de puzzle qui a eu un bon petit succès d'ailleurs.
Ouais, carrément. Il a une suite qui est prévue pendant pas si longtemps,
oui.
Call of the Elder ou un truc comme
ça. Call of the Elder.
C'est ça.
Là, c'était un American Arcadia est un jeu beaucoup plus narratif, sachant que Call of Duty a aussi une grosse partie narrative, notamment par rapport à l'histoire de personnages qu'on incarne. Mm-hmm. Là, mais avec un gameplay à côté où on va te mettre des énigmes. Là, on est vraiment sur, je vais pas dire un walking sim, mais on est quasiment sur, on te montre une histoire. Et puis à un moment, il va falloir que tu prennes ta manette, quoi. Mais
ouais.
c'est plus.
C'est le souvenir que j'en ai aussi. De temps en temps, il faut te mettre au bon endroit, au bon moment.
C'est
à peu près tout.
C'est vraiment ça. Il y a deux gameplays différents. Donc un gameplay en fait où on va jouer. En fait, on va jouer deux personnages. Un personnage qui fait partie de American Arcadia, qui est donc une ville sous cloche. Je veux pas spoiler le Truman Show, mais bon, c'est le Truman Show.
Oui, voilà, c'est sous cloche, mais les gens qui sont dedans sont pas au courant, quoi.
Voilà, c'est complètement ouais,
c'est,
ça.
Mais sauf que c'est pas orienté sur une personne. Tout tourne autour de lui, non,
c'est plein de
toute
personnes.
La ville. Enfin.
Voilà, d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que le jeu t'amène du lore de comment il a pu amener ça.
Complètement, ouais.
Comment il a pu faire des lois pour aller jusque-là, etc.
Comment c'est devenu un outil de contrôle social. Enfin,
non,
c'est très intéressant.
Très intéressant. Ouais. Je trouve, à titre personnel, je trouve le lore plus intéressant que beaucoup de phases du jeu et c'est un peu mon problème avec le jeu.
Ouais, même si le personnage principal, bah, c'est pas le pire personnage pour justement découvrir tout ça, tout autour, etc. Tout le côté très, lui-même très candide sur beaucoup de choses. Et en fait le jeu est bien fait là-dessus, je trouve. Ouais.
Je trouve que en fait, ce jeu-là, le deuxième personnage est un personnage, lui, qui est un personnage plutôt un activiste qui veut. Faire un peu comment dire American Arcadia est une grande émission de télé. Tout le monde regarde American Arcadia et les seuls qui sont pas au courant que c'est une émission de télé sont les gens à l'intérieur de la ville d'American Arcadia qui vivent leur vie. Voilà.
Ambiance années 70.
Voilà. Ambiance années 70 forever.
C'est ça.
Voilà. Voilà. Et le truc, c'est que tous les. Il y a un mélange. Là où c'est un peu plus moderne que Truman Show, c'est qu'il y a un mélange entre ce côté-là et le fait qu'on peut suivre individuellement chaque personne à l'intérieur d'American Arcadia.
En tant que spectateur, on peut être fan de quelqu'un.
On peut être fan de quelqu'un et que donc, exactement comme sur Twitch par exemple, tu vas pouvoir suivre un personnage et être un follower de cette personne-là.
Mmh.
D'accord ? Et toi, ton personnage, le personnage que tu es censé incarner, le premier qui est à l'intérieur d'Arcadia, c'est un personnage qui est suivi par pas grand monde, voire personne. Okay ? Et l'autre personne que tu vas incarner est une personne qui cherche à sauver, en tout cas,
oui,
d'un destin inconnu.
Le personnage qui n'est pas assez connu.
Un personnage qui n'est pas assez connu. Voilà. On va avoir deux gameplays. Le gameplay, lorsqu'on va jouer le personnage à l'intérieur de la ville, et le gameplay, lorsqu'on va jouer l'activiste qui cherche à l'en faire sortir. Okay. Et donc, on va constamment faire des allers-retours entre ces deux personnages-là. Le premier personnage, il va y avoir une logique un peu puzzle platformer. Mais très light, dans le sens où les puzzles sont quand même pas...
Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement. C'est...
Oui,
ouais. Surtout pour raconter l'histoire, enfin, c'est pour suivre l'histoire. À
oui,
travers,
voilà. Alors, il y a deux, trois trucs où, effectivement, deux, trois phases...
Il faut être précis, quoi.
Donc, il faut être précis, notamment les phases d'infiltration.
Oui, ou on te court après aussi.
Ou les phases de course-poursuite, il y en a beaucoup aussi. Mm-hmm. Les phases où, en fait, il faut activer tel truc au bon moment, etc.
Oui, c'est pas les phases les plus réussies. Ouais.
Le seul avantage et que chose que j'aime bien dans ces phases-là, c'est que ce sont des phases où la caméra est en mode caméra de contrôle, quoi.
Mmh. C'est-à-dire
que
c'est les caméras qui filment réellement le truc.
Voilà.
Toi, tu es dans la zone de contrôle justement.
Voilà, et je trouve que du coup, diégétiquement, c'était plutôt intéressant de le faire comme ça.
Oui, oui, c'est vrai que ça a du sens.
Et t'es jamais dans la peau en fait. Tu sais pas. T'as toujours un côté externe et qui correspond bien au final à la distanciation que tu dois avoir avec le personnage qui est censé être un personnage de fiction.
Et puis même au placement physique réel des caméras telles qu'elles doivent l'être dans le jeu, enfin dans l'univers.
Et donc ça, je trouvais ça intéressant. L'autre phase quand on joue l'activiste est une phase à la première personne où on va faire des petites énigmes. Des petites énigmes. Alors rien à voir avec celle de Call of the Sea, hein, qui était assez vénère à un certain moment. Là, c'est plutôt des trucs simples, voire simplistes. On va devoir déjouer des caméras de sécurité, récupérer les codes de bonnes choses, rentrer dans telle partie ou non, cacher des trucs dans son appartement, ce genre de choses. Il y a beaucoup de choses que j'ai aimées dans American Arcadia, son propos,
ouais.
Son lore.
Ouais, l'univers, ouais.
Sa manière de raconter, c'est-à-dire même, c'est en termes de gameplay, sa manière de raconter,
ouais.
Et puis par les deux côtés, avec je ne révèle pas le twist final, mais que je trouve au final intéressant et super logique.
Mmh. Ouais, non, il est bien écrit. Hein.
Il est super logique, le côté de, c'est évident, c'est évident que c'est comme ça, mais voilà. Mon vrai problème, c'est que... C'est pas
vraiment un jeu.
C'est un jeu.
Ouais,
je suis premier.
C'est limité, quoi.
C'est le premier. C'est pas que c'est pas un jeu. C'est pas un bon jeu.
Oui, aussi. Oui.
Tu vois. C'est-à-dire que c'est. Je trouve que c'est une expérience interactive. Honnêtement, je suis premier à dire Firewatch en termes d'interactivité. Il y a pas grand-chose. Je trouve excellent.
Ouais, je vois ce que tu veux dire.
C'est pas un problème d'interactivité ou c'est un jeu, c'est pas l'histoire. C'est vraiment par contre pas un bon jeu dans le sens où chaque partie de gameplay et soit pas assez précise, soit pas assez intéressante.
T'as envie de savoir la suite de l'histoire.
Heureusement que c'est très bien écrit et que le monde est intéressant et que l'histoire est intéressante et que les personnages, les deux personnages sont super cool.
C'est l'écriture qui est bien et c'est ça qui te donne envie de, d'avoir la suite. C'est pas ce qu'on te demande de faire.
Le chef de la sécurité, c'est trop bien. Je trouve ça. C'est tellement logique en plus.
C'est pour ça que c'est pas un mauvais jeu, mais je comprends que. Il est intéressant à faire. Il est intéressant, mais il doit même être intéressant à faire avec, avec quelqu'un, en mode film un peu.
Oui, oui.
Parce que vraiment, les parties où tu dois agir sont pas très développés.
Et même des fois, pas assez précis, il y a des trucs où t'es bêtement coincé parce que c'était pas super bien fait. Honnêtement, ce jeu-là, j'aurais aucun problème si on me dit vas-y, il est à moins de 10 balles et en promo à 5 balles. Allez, vas-y, de toute façon, il se joue, entre guillemets, il se joue tout seul et en termes de l'or. Mon vrai problème, c'est qu'il est à 20 balles, ce jeu.
Moi, je l'ai eu en bundle à 2 ou 3 euros. Effectivement, son prix de base, c'est 19,50 €.
Et à 20 balles, c'est trop cher. C'est beaucoup trop cher pour ce que ça propose. Surtout qu'il se finit relativement vite en plus.
Ouais, 6 heures, un truc comme ça, je pense.
Ouais, peut-être 5-6 heures. Peut-être même un peu moins. Je sais que je l'ai mangé en quasiment une journée. Et c'est con parce que vraiment, je veux vraiment l'aimer ce jeu. Parce que et je trouve que par rapport à plein d'autres jeux qui mécaniquement ont plus de choses à dire.
Il est bien écrit, ouais. Mais le gameplay est bon.
Typiquement, si tu prends juste le côté puzzle platformer, je trouve que Limbo raconte pas grand-chose, mais est un jeu vraiment meilleur. Limbo, je trouve qu'il raconte pas grand-chose, en vrai, tu vois. Inside raconte déjà beaucoup plus, c'est déjà plus intéressant, tu vois. Limbo raconte pas grand-chose, mais mécaniquement, c'est un jeu infiniment supérieur à American Arcadia. Là, je trouve qu'American Arcadia, il est surtout sur son. C'est un très bon scénar, quoi.
Ouais, c'est ça.
C'est un excellent scénar, voilà. C'est dommage, hein, parce que c'est. Surtout que c'est pas comme si on était encore il y a 20 ans où finalement t'avais peu de jeux qui racontaient des trucs intéressants et que c'était pas si grave. C'était pas.
Après, oui, des Walking Sim, il y en a des biens. Peut-être là-dessus qu'ils auraient peut-être plus.
J'ai envie de dire.
Peut-être pu partir là-dessus, ouais.
Juste en restant en Espagne, je connais au moins un studio qui s'est raconté l'histoire avec un vrai gameplay, quoi. Quand on pense à Red String Club, quand on pense à Cosmic Wheel Sisterhood, ou Many Night Whisper, tout se fait par le même studio dont j'ai mangé le nom.
La Deconstructim,
qui sont aussi espagnols, et à chaque fois, la partie gameplay n'est pas un souci, quoi. Donc voilà. Prenez-le à 3 balles. Prenez-le en bundle.
En bundle, il était très bien.
Moi, je l'ai eu en bundle avec Cathy Rain 2, que je vais bientôt me faire d'ailleurs.
Ouais, moi je crois que c'était un bundle Fanatic Hall où il était à 3 euros avec d'autres jeux. Voilà.
Et là, je l'ai chopé, et Cathy Rain 2, enfin le peu que j'en ai vu, je sens que ça va être très bien. Il faut d'abord que je finisse Old Skies. Avant. Voilà.
Bon, du coup, vu que j'aurais pas le temps de parler d'autre chose, bonne question. Hein.
Il te reste quoi
en 10 minutes.
En 10 minutes, il te reste.
Mais il nous reste 10 minutes, donc de toute façon, ça va pas être compliqué. Je pense que, Schedule 1, ça va être plus intéressant.
Ouais, vas-y.
Schedule 1, c'est un jeu qui est sorti l'année dernière et qui a tout pété. Alors que, bizarrement, c'est un petit jeu qui est développé par un seul gars solo.
Mais tout qui est pas spécialement joli. Tout ça, ou...
Il est dans les 12, dans les 10 ou 12 jeux qui ont rapporté le plus sur Steam l'année dernière. Je sais plus si c'est 10 ou 12.
La partie platinum. Il est dans le platinum.
C'est.
Ça envoie.
Ouais, c'est ça, c'est 10. C'est juste monstrueux. C'est estimé à plus de 125 millions de dollars de revenus. Donc, que ceux les jeux qui sont dans cette catégorie. Donc, il y en a qui ont gagné beaucoup plus. Mais t'as au moins gagné ça. Donc, pour un jeu développé par un gars solo qui est vendu à 20 balles, au même prix que American Arcadia, qui est toujours officiellement en early access d'ailleurs. Et qui est vraiment basé sur un. Alors, c'est aussi un jeu australien. comme quoi j'aurais parlé de deux jeux australiens. C'est vraiment un principe, d'ailleurs il avait été accusé de plagiat à sa sortie, puisque c'est le principe, c'est un drug dealer simulator. En gros, on est...
Il y en a plein qui sont sortis comme ça, non?
Il y en a un qui s'appelle Drug Dealer Simulator et qui a exactement le même gameplay.
D'accord.
Avec exactement en vue première personne où on fait exactement les mêmes choses. Mais graphiquement, il est vraiment en mode cartoon. Là, celui-là, il est en mode détendu. Donc en fait, on commence par vendre un petit peu de la beuh par-ci par-là pour se faire un peu de thunes. Et au fur et à mesure, ça nous ouvre de plus en plus de moyens. On fait pousser dans... On loue en fait un lieu dans lequel on peut faire pousser. Ensuite, on recrute des dealers pour vendre à notre place. Et on fait des croisements entre les variétés pour développer des nouveaux effets qu'on va vendre beaucoup plus cher à des gens et donc gagner encore plus d'argent et monter encore plus de son empire en fait. Et c'est un jeu qui a très très bien marché pour une raison aussi assez simple. On était vraiment, l'année dernière, ça a vraiment été l'année des jeux coop rigolos.
Ah, c'est un jeu coop ?
Il se joue en coop. Et donc, on est vraiment le côté... En fait, dans ce genre de jeu où on travaille, où on a vraiment un boulot, c'est-à-dire que voilà, le matin, tu te lèves, tu vas t'occuper de tes plantes, ensuite tu vas vendre, ensuite tu vas améliorer ton truc, tu vas acheter des nouveaux trucs. Enfin, tu vas vraiment... En fait, tu travailles toute la journée pour ton business. Mmh. Et donc en vue à la première personne, dans une ville qui est sympathique, qui a ses propres son ambiance, même si elle est un petit peu c'est peut-être ce qui manque un petit peu, je l'ai trouvé manquer de personnalité en fait à la ville, un petit peu basique. Elle aurait pu être un peu plus, bon, il y a des casinos, il y a différentes activités à faire en plus de simplement aller vendre ta beuh. Et tu dois un petit peu esquiver les flics, mais ça c'est pas le plus dur en fait. Et tu as un petit peu de la concurrence en fait, des gens qui veulent un minimum maîtriser tel ou tel quartier où tu veux essayer de commencer à vendre. Mais du coup tu peux effectivement faire ça à plusieurs. Te partager le travail. Il y en a qui vont simplement s'occuper des plantes, d'autres qui vont... ça visiblement ça a bien bien marché, ça a vraiment beaucoup contribué, surtout à les premières semaines de sortie du jeu. Donc en mars, il est sorti en mars, mais vraiment ouais, mars-avril ça a été... Un des jeux les plus joués aussi en coop. Et j'ai plus le nombre de joueurs simultanés là, mais c'était plusieurs dizaines de milliers. Donc vraiment, c'est un truc qui a très bien marché. Et alors moi, je l'ai lancé un peu, je l'ai lancé en solo, j'ai pas joué en. Et je trouve que ça marche bien. Il y a le côté un peu addictif de j'ai ça à faire. Comme ça me permettra, après, j'aurai gagné assez de thunes pour améliorer un truc, pour acheter louer un appart plus grand, pour faire augmenter mon activité. Gagner encore plus de thunes, etc. Donc on est vraiment dans cette logique-là, en fait, de...
Capitalisme.
Ah oui, complètement. Complètement. Mais on le fait de façon un petit peu rigolote, dans le sens où...
Mais c'est rigolo, le capitalisme.
Alors, dans les jeux, ouais. C'est vachement plus rigolo dans les jeux. Mais en vrai, c'est... Ouais, il y a ce côté un petit peu addictif, il y a le côté de l'expérience, donc il y a un côté très Breaking Bad. La série, en fait, oui. Ils reprennent aussi quelques éléments, notamment le fait de pouvoir, au début du jeu, tu bosses dans un camping-car.
Oui, va dire, d'accord, voilà. Ok.
Donc t'es vraiment dans la même ambiance. Et tu as, voilà, après derrière, tu as des sous-sols entiers avec. Mais bref, et donc il reste sur ce côté. C'est ça qui est un petit peu étonnant, c'est que ça se passe dans une ville. Où tu as un couvre-feu tous les soirs à, je sais plus, je crois que c'est 22h jusqu'à 6h du matin. Si on te voit dans la rue, les flics te chopent, enfin, te courent après. C'est vraiment un truc, et pourtant, évidemment, c'est la nuit que tu peux faire le plus de thunes.
Logique.
Voilà, la logique de risque-récompense. Tu testes les mélanges de plein de trucs chelous, de plein de produits chelous pour créer des effets bizarres à tes drogues, enfin... T'as vraiment ce... Alors c'est pas du tout un jeu très moral à ce niveau-là, mais ce qui marche bien, c'est son côté un petit peu cartoon aussi au niveau des graphismes, très basique, très... vraiment très cartoon, pas du tout sérieux. Et en même temps, le côté addictif de, comme je te dis, d'essayer de vouloir progresser, de vouloir améliorer ton activité, etc., ça marche bien. Je comprends pourquoi il a tellement marché. Même si je m'en suis un petit peu lassé au bout d'un moment, parce que c'est malgré tout, enfin tu as la découverte en fait, la phase de découverte, ok ça me permet de débloquer ça, ok donc je peux maintenant faire ça, etc. Ça marche très bien. C'est comme souvent finalement dans les jeux, t'as un côté en plus monde ouvert où tu vas un petit peu te promener, tu vas découvrir des trucs un peu planqués, t'as des T'as ce genre de choses, t'as tes personnages un petit peu préférés avec qui tu communiques parce que tu as des clients qui te rappellent régulièrement. Et voilà, il y a un petit peu ce côté-là qui marche bien, le côté... en gros, moi je suis tombé dedans en mode, tu poses ton cerveau et tu rentres dedans et t'as besoin de réfléchir, en fait tu fais un petit peu les choses de façon mécanique et c'est très satisfaisant pour ça parce que je trouve ça assez efficace dans les mécaniques. Donc voilà, je pense que c'est d'autant plus rigolo quand tu le fais à plusieurs. Parce que du coup, tu peux te raconter des conneries avec les gens avec qui tu joues et améliorer, finalement, aller plus vite dans la progression de ton activité, parce que tu n'as pas tout à faire toi-même, donc ça va un peu plus vite. Mais je comprends pourquoi ça a si bien marché. Après, je comprends aussi pourquoi aujourd'hui il est un peu moins joué. Parce que je pense qu'il y a une limite finalement, à l'absence de propos, d'une certaine façon, c'est vraiment, comme je dis, c'est très mécanique. C'est très mécanique et le seul propos, c'est deviens riche. Il n'y a pas plus d'objectif que ça, tu ne le fais pas, je sais pas, dans un objectif derrière autre. C'est juste, quand tu commences à brasser des dizaines et voire des centaines de milliers de dollars, on n'est plus dans le même. C'est pour ça que je parle de Breaking Bad, c'est qu'on est un petit peu on rentre dans ces démesures-là. Et finalement, ce qui cause un peu la perte d'intérêt, c'est justement que c'est juste du more of the same. Tu changes les échelles, en fait.
Il n'y aurait pas une deuxième phase de jeu qui serait plus intéressante
ou alors, je ne l'ai pas trouvé et je n'en ai pas entendu parler non plus. Donc vraiment, l'évolution, c'est à partir d'un moment, tu commences à mixer des produits chelous, genre tu prends du coca et de la beuh, et tu les mélanges ensemble, ça fait de la beuh avec un effet bizarre.
D'accord, donc il y a ce genre de choses. D'accord, mais il n'y a pas genre des gants griveaux, ce genre de truc.
Un petit peu, mais c'est pas la meilleure partie, parce que du coup, tu as un petit peu des phases de combat contre ces gants griveaux. C'est pas les parties les plus intéressantes. Même justement pour ouvrir certaines zones, tu es obligé d'éliminer la bande rivale. Pendant un temps, en fait, je la cherchais parce que je la trouvais pas. Je savais pas quoi faire pour la déclencher. Donc j'étais bloqué, je pouvais plus avancer dans le jeu parce que tout ce que je faisais, en fait, ne provoquait pas la suite du scénario tel qu'il était prévu. Mais c'est une expérience intéressante, en fait. C'était l'expérience de ces jeux qui font partie des énormes succès de l'année dernière, qui est intéressant à jouer pour analyser un petit peu ce qui fonctionne dans ce genre de jeu. Mm-hmm. Et on est vraiment dans les simulateurs like. T'avais Gas Station Simulator qui avait extrêmement bien marché il y a 2-3 ans aussi. Même principe, en fait, où tu ne fais que gérer une activité.
Oui, oui,
les job simulators, enfin, les jeux où tu travailles.
Souviens-toi, hein, parmi les trucs qui marchent très très bien, et on se demande, et il y a beaucoup de gens extérieurs qui se demandent bien pourquoi, c'est tout ce qui est les truck simulators, c'est les Eurotruck, les snow, les.
Alors, Eurotruck, il y a le côté tu voyages, tu vois ce que je veux dire, tu vas quelque part. Alors que dans les trucs où tu gères un commerce, par exemple, c'est moins ça qui fonctionne.
Oui, oui. Mais en fait, le truc, vu de l'extérieur, c'est. Enfin, tu bosses, quoi, tu vois.
Oui.
C'est pareil comme les Mudrunner, les machins. Et pour le coup, on connaît des gens
qui aiment bien ce genre de jeu.
Qui aiment bien ce genre de jeu. On ne juge pas, mais en fait, si, très fort. Le jeu où il y a de la neige, paraît-il.
Voilà, il paraît. On a entendu parler de cette histoire.
C'est ça.
Mais en vrai, c'est ça qui fonctionne, en fait. C'est vraiment ce côté, t'es dedans et quand la boucle de gameplay est satisfaisante, jusqu'à un certain point, pour moi, vraiment, elle est là, la limite. Ça fonctionne pendant un certain temps et au bout d'un moment, ça devient moins efficace.
Ouais, c'est vrai que moi j'ai toujours plus de mal avec ce type de jeu là vu que c'est vrai que moi je suis plus attiré par le côté narration. Typiquement, tu sais, tu parlais de jeux de gestion tout à l'heure. Et moi, je sais le seul city builder que j'aime bien, c'est Frostpunk à cause du côté narratif. Le seul rogue que j'aime beaucoup, c'est Hades à cause du côté narratif, etc., etc. S'il n'y a pas cette dimension-là, c'est vrai que j'ai du mal à rentrer dedans. Tu vois.
Je comprends. C'est un peu, d'ailleurs, Tavern Keeper a ce côté narratif. C'est dans la version, on va dire, la campagne.
Okay, ouais.
Mais effectivement, chez Duluan, beaucoup moins. Ouais. Beaucoup moins. Et c'est peut-être ce qui lui manque, justement, je trouve. Elle est, c'est plus une narration. C'est une progression, en fait, bien plus qu'une narration. Ça, c'est toi qui écris comment est-ce que tu vas progresser, quel chemin tu vas prendre et comment tu vas le faire, combien de temps tu vas prendre. Mais ouais, c'est intéressant malgré tout de voir un peu ce genre de fonctionnement. On n'est pas sur les immenses succès des jeux en coop comme Peak, par exemple, qui est pas dans le même, du tout dans le même registre, qui est un jeu coop, vraiment dans ce cas-là, où tu dois simplement j'ai vu que, grimper et aider les gens à t'emmener avec toi.
Cette année, Repo a fait beaucoup marcher.
Repo,
aussi.
Oui. Repo, qui est un Lethal Company like, enfin, jeu d'horreur en fait.
Il a bien marché aussi, c'est le jeu. Harvey Veriette, il a bien marché aussi, non?
Oui, mais il est sorti beaucoup plus tard. Okay. Donc, mais il est parti sur des bases monstrueuses.
Ouais, aussi,
il est parti
Harvey sur des Veriette bases aussi, monstrueuses. Voilà. Qui est typiquement un jeu coop. Pour coup, là où il y a un but.
Mais voilà, il y a un but, mais et le côté très très joyeux, très très simple. Et ça fait partie effectivement d'une des tendances de 2024-25 qui serait intéressante à analyser.
Ouais.
Carrément.
Eh bien, très bien.
Voilà.
Très
donc,
bien.
Donc, je le conseille plus ou moins chez Dulwan. Il faut savoir dans quoi on rentre.
Ouais.
Mais avec des potes, ça peut être très sympa.
Ok. Et eh ben, écoute, merci, merci Romain.
Mais merci à toi Xavier aussi.
Comme chaque semaine, on remercie le collectif Presse F5 qui héberge notre podcast Le Nerf de la Game et Radio Canut pour l'accès au studio. On vous indique que le 20 janvier prochain aura lieu au Troquet Taquin une soirée présenté par nous-mêmes, qui s'appelle Sex, Nerd et Rock'n'Roll, avec des questions, avec
de la musique,
du blind test,
avec de
l'excellent goût, encore vu le thème, ça va être du goût... Du coup, millésimé cette fois-ci et pas du tout de la mauvaise foi. De toute façon, on en reparle très bientôt.
Oui.
Mais
dès la semaine prochaine.
Et puis dès la semaine prochaine,
on vous rappellera.
On espère qu'on aura Bettina cette fois-ci et ce sera peut-être une émission un petit peu plus cadrée, préparée.
Oui, avec un sujet.
Avec un vrai sujet cette fois-ci.
Voilà.
On se dit à la semaine prochaine. Bonne soirée. Ciao.
Salut.